France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les initiatives sur la planète se multiplient pour éviter un désastre mondial face au coronavirus qui oblige notamment l'Italie où le nombre de morts explose à se cloîtrer pour la deuxième journée consécutive. En Espagne, 1,5 million d'élèves sont privés d'école depuis ce matin. En revanche, en Chine, signe d'une normalisation progressive des entreprises de Wuhan, la ville où est apparu le nouveau coronavirus, sont désormais autorisées à reprendre leurs activités. Puis s'agissant de la France, où le bilan est désormais de 33 morts et 1780 cas de contamination, les autorités ont décidé de faire appel aux volontaires de la réserve sanitaire. Enfin, l'invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Ensemble, nous tâcherons de mieux comprendre comment les employeurs gèrent aujourd'hui cette situation de crise, donc avec leurs salariés.
L'actualité en France, c'est aussi l'épilogue aujourd'hui, Thomas, au procès des époux Fillon.
Oui, au lendemain d'un virulent réquisitoire réclamant notamment de la prison ferme pour l'ex-premier ministre, la défense tente depuis ce matin de convaincre le tribunal que les emplois de Pénélope Fillon auprès de son mari n'étaient pas fictifs. Enfin, raillé pour ses gaffes et les ratés de sa mémoire, Joe Biden semble pourtant sur le point de décrocher la victoire d'une carrière. Hier, le candidat démocrate aux États-Unis a pris un avantage déterminant dans les primaires de son parti. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À la veille du scrutin municipal, ces anachronismes urbains qui nous empêchent de penser la ville autrement, de la réinventer. On en parle avec notre invité, l'urbaniste Jean-Marc Hoffner, en discussion avec Hervé Aubron du Nouveau Magazine Littéraire.
Merci et à tout à l'heure. Invariablement, et alors que personne ne saurait prédire actuellement quand cessera cette vertigineuse comptabilité autour du nombre toujours plus élevé de personnes victimes du coronavirus, comment ne pas prendre acte aujourd'hui encore donc de l'avancée toujours plus rapide de l'épidémie sur la planète? Quand la Jamaïque dit avoir enregistré un premier cas de contamination, en Indonésie, au Maroc, au Liban ou bien encore au Panama, là-bas la maladie a tué pour la première fois. Au total, sur les 81 000 personnes officiellement infectées en Chine continentale, 3 100 sont décédées. Et dans 99 autres pays et territoires, sur les 36 000 cas de contamination recensés, 1 100 se sont révélés mortels. En Italie, 168 personnes ont encore succombé ces dernières 24 heures, un record. Et puis il est un pays où l'épidémie s'est donc accélérée depuis hier. C'est l'Espagne qui comptabilise désormais 36 morts, c'est plus par exemple que dans l'Hexagone voisine. Et face à cette avancée spectaculaire du coronavirus, eh bien, les autorités ont décidé d'adopter des mesures fortes dans les trois provinces les plus touchées. Parmi elles, la fermeture dès ce matin de tous les centres scolaires pendant 15 jours. Au total, 1,5 million d'élèves sont ainsi concernés. C'est un reportage à Madrid signé de notre correspondante Marie-Hélène Ballestero.
Il est 16h, la sonnerie retentit comme chaque après-midi à l'école Mila Sierra Madrid et marque la fin des cours. Mais hier, cette sonnerie avait un retentissement particulier car pendant deux semaines, il n'y aura pas de cours ici comme dans le reste des établissements scolaires de la région. Un casse-tête pour les parents qui ont dû s'organiser en un temps record pour faire garder les enfants. Raoul a décidé de poser des vacances à la dernière minute. Il va emmener ses trois fils à la campagne. Il n'a pas voulu les laisser avec les grands-parents.
Ça a été mal planifié parce qu'à la fin, ceux qui vont devoir garder les enfants, ce sont les grands-parents. Alors que les enfants présentent un risque très élevé. C'est comme si on plaçait une bombe à nos pauvres aînés alors qu'ils devraient être isolés.
Marissa est du même avis. Lundi soir, lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle s'est inquiétée, mais son employeur a été très conciliant.
On nous a envoyé un message en nous proposant de faire du télétravail. Bien sûr, ça ne va pas être simple de télétravailler avec les enfants à la maison. Je leur ai déjà dit qu'ils vont devoir être silencieux. On va faire ce qu'on peut. Eux, ils sont ravis.
Pas de doute, sa fille Inès de 7 ans est aux anges.
Je suis super contente. Car on n'a pas école.
Malgré tous les devoirs qu'on leur a donnés, les élèves madrilènes saluent ces vacances improvisées. Des congés dont la concierge Marie Carmen ne va pas pouvoir bénéficier.
L'école est fermée, mais on doit quand même venir travailler. Je suis fonctionnaire, employée de la mairie et obligée de venir ici 7 heures par jour. 7 heures à ne rien faire, car en plus, l'école va être fermée au public. Je vais seulement ouvrir et fermer les portes en fonction de l'arrivée des profs.
Une situation qui va durer pour l'instant jusqu'au 26 mars.
Alors si partout l'épidémie avance au point de se rapprocher dangereusement de la pandémie, en revanche, l'heure est visiblement à l'assouplissement des dispositifs en Chine où le pouvoir dont l'autoritarisme aura pourtant été pour une large part responsable de cette crise sanitaire mondiale se targue à présent d'avoir enrayé la maladie apparue il y a plus de 3 mois. Et de fait, seules 24 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures, un ralentissement spectaculaire par rapport aux centaines de cas annoncés jusque-là quotidiennement par Pékin. Et c'est donc pour annoncer cette victoire que le président Xi Jinping s'est lui-même rendu hier à Wuhan, berceau de l'épidémie, dans une mise en scène savamment orchestrée destinée à démontrer l'efficacité de son modèle de gouvernance. Quoi qu'il en soit, et signe justement de la normalisation progressive à l'épicentre du Covid-19, des entreprises de Wuhan sont désormais autorisées à reprendre leurs activités. C'est le cas dans les secteurs des transports publics, de l'approvisionnement en fournitures médicales, mais aussi de la production de produits de première nécessité. Et l'on pourrait encore y ajouter le cas de ces centaines d'équipementiers du secteur de l'automobile, dont près de 10% de la production mondiale est aujourd'hui réalisée à Wuhan. Le groupe français PSA, par exemple, lequel a déjà commencé à reprendre ses activités dans ses bureaux d'études, de même que chez ses sous-traitants, envisage à présent de rouvrir son usine de Wuhan la semaine prochaine. Les précisions d'Hakim Kasmi.
Même si seulement 3% des pièces du groupe PSA sont produites localement, il suffit d'une pièce qui ne soit pas livrée dans ces usines chinoises pour que les voitures ne soient pas livrées à leurs clients. Pour compenser, le constructeur a donc dû puiser dans ses stocks et demander à ses fournisseurs et ses équipementiers du monde entier de produire des pièces normalement faites en Chine. Des pièces envoyées par avion pour limiter les délais de livraison. Carlos Tavares, le PDG de PSA.
Il y a à peu près 4000 pièces différentes par voiture et il nous faut les 4000 pièces. Donc ça pose effectivement des difficultés logistiques, mais grâce à des moyens exceptionnels que nous avons mis en œuvre, notamment des moyens aéroportés, pour l'instant nous avons réussi à maintenir nos usines européennes en plein fonctionnement. C'est un point très positif et on va essayer évidemment de continuer à soutenir nos équipes. Je les salue d'ailleurs parce qu'elles font un travail absolument remarquable.
Alors, si la crise du Covid-19 relance la question des relocalisations pour protéger ses sources d'approvisionnement et les diversifier, les dirigeants comme Carlos Tavares rappellent qu'elles prendront plusieurs années et qu'elle ne sera pas sans conséquence sur les prix pour les consommateurs qui devront accepter de payer plus cher leur voiture.
En France, où le bilan du coronavirus est désormais de 33 morts et 1784 cas de contamination, dont 86 malades actuellement en réanimation, l'exécutif prépare à présent les esprits à une accélération de l'épidémie. Hier, le président Emmanuel Macron, lequel avait déjà parlé d'une épidémie, je cite, « inexorable », a tenu encore à prévenir. Nous n'en sommes qu'au tout début, avant d'insister, nous vivons une crise exceptionnelle. Pour autant, la France reste donc toujours aujourd'hui au stade 2. Et pourquoi ? Tara Schlegel a posé la question au professeur Anne Goffard, chercheur en virologie à l'Institut Pasteur de Lille. Et vous allez l'entendre, l'explication viendrait selon elle de ce que la situation n'est aujourd'hui pas la même dans tout l'Hexagone.
La situation, elle est très très contrastée, puisque par exemple, dans les Hauts-de-France, on a énormément de cas. Il y a eu les 91 cas de l'Oise, avec déjà 10 décès dans le cluster de l'Oise. Au CHU de Lille, la réanimation est pleine, le service de maladies infectieuses est plein. Voilà, donc on a beaucoup de cas. Au CHU d'Amiens, c'est pareil. Donc il y a énormément de cas. En Ile-de-France, il y a aussi beaucoup de cas. Donc dans le nord de la France, il y a beaucoup de cas. Et puis j'étais au téléphone il y a une heure avec une collègue de Montpellier, où ils ont 2 cas au CHU de Montpellier. Donc je pense que pour les autorités politiques, c'est compliqué de déclencher un stade 3 sur tout le pays, alors que les gens qui habitent par exemple du côté de Montpellier vont dire « nous, pourquoi on est confinés alors qu'il n'y a pas de cas ?» Ce qui va décider, sur le plan médical, la décision de passer en stade 3, elle se fait parce que l'hôpital est débordé en fait et qu'on ne peut plus faire l'isolement au sein des hôpitaux. Mais au début de l'épidémie, au début du mois de janvier, ça a permis d'empêcher la diffusion de l'épidémie sur le sol français. Donc cet isolement en milieu hospitalier, c'était bien. Maintenant, dans certaines régions, c'est plus possible de faire comme ça parce que les hôpitaux sont occupés par plein de patients.
Voilà, des hôpitaux débordés, explique Anne Goffard, médecin au CHU de Lille. Et c'est ainsi, par exemple, que les autorités ont donc décidé de faire appel aux volontaires de la réserve sanitaire pour renforcer les personnels de santé. Margot Delpierre, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont celles et ceux aujourd'hui concernés ?
En priorité, ceux qui n'exercent pas aujourd'hui, soit parce qu'ils sont à la retraite depuis moins de 5 ans, soit parce qu'ils ne travaillent pas pour des raisons personnelles. Dans un deuxième temps, les jeunes qui n'ont pas d'activité régulière seront appelés. La réserve est est composé de volontaires mobilisables à tout moment et parmi eux, il y a aussi des professionnels actuellement en exercice comme Abdel Douga, aide-soignant. Il travaille la nuit à l'hôpital parisien Saint-Antoine et il reçoit tous les jours des mails lui demandant de partir en mission dans les centres qui en ont besoin.
C'est quelque chose de très important quand on est soignant, on ne choisit pas par hasard, hein, c'est par vocation. J'ai toujours aimé faire ce travail-là, donc il me semblait logique que je puisse me rendre disponible pour la réserve. Mais c'est vrai que c'est difficile de nous rendre disponible du fait qu'on travaille déjà à l'hôpital. J'en parlerai déjà ce soir. Savoir déjà si la direction serait d'accord à me libérer de façon à être disponible pour la réserve.
La réserve qui compte en ce moment 3500 personnes et peut-être bientôt plus, puisque le directeur général de la santé a lancé un appel à candidature. D'après l'ordre des médecins, il y a 40 000 médecins jeunes retraités qui pourraient grossir les rangs de cette réserve, car pour l'instant elle est trop petite selon la CGT de l'hôpital Cochin à Paris, qui rappelle que de toute façon, hors épidémie de coronavirus, on demande déjà régulièrement aux professionnels de prendre sur leur repos pour faire des heures supplémentaires. Le syndicat s'interroge, vu la situation, les personnels pourront-ils malgré tout partir en vacances? Seront-ils réquisitionnés à un moment donné? On n'y est pas encore, mais ces questions se posent.
Merci Margot Delpierre. Alors, outre la situation des personnels de santé, comment les employeurs gèrent-ils eux aussi cette situation de crise avec leurs salariés? Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Première question monsieur Serre, n'assiste-t-on pas aujourd'hui à une forme de psychose dans certaines entreprises?
De psychose individuelle alors. Je ne suis pas sûr que des entreprises soient des psychoses collectives. Par contre, c'est vrai que vous avez à gérer des gens qui paniquent un peu et qui sont un petit peu très angoissés par rapport à cette situation. C'est une crise d'ailleurs qui est à la fois rationnelle et qui génère des comportements parfois un peu irrationnels.
Comment vous, alors DRH, répondez-vous à cette anxiété exprimée par les salariés? Vous m'avez quand même dit, dès qu'on a un rhume, parfois certaines entreprises disent « bon, ce serait peut-être mieux que tu restes chez toi ».
Oui,
il y a un principe de précaution qui va très loin.
Alors, c'est pas tout à fait un principe de précaution. C'est d'abord, le sujet, vous l'avez dit, c'est gérer l'anxiété d'un certain nombre de personnes. Et effectivement, dans une entreprise, si quelqu'un commence à avoir un rhume ou se met à tousser, vous pouvez avoir des gens autour qui se mettent à paniquer de manière irrationnelle, mais vous pouvez pas rester inactif. En fait, vous êtes obligé d'intervenir. Je crois que le sujet principal pour que tout le monde conserve un petit peu une forme de sérénité, c'est de communiquer. Les gens ont besoin de savoir, et c'est légitime, que leur entreprise a pris en considération la situation et engage un certain nombre d'actions. C'est la meilleure manière de rassurer. C'est de la communication d'abord.
Et communication, alors sur quelle base précise?
D'abord, vous avez une communication régulière sur les mesures spécifiques qui sont prises par telle ou telle entreprise. Il faut savoir qu'en phase 2, on a assez peu d'orientation obligatoire, sauf dans des clusters, de la part des pouvoirs publics. On est très bien informé par le ministère de la Santé. En revanche, les entreprises sont assez libres de leur mouvement. Alors, il y a plusieurs types de décisions qui sont prises. D'abord, depuis longtemps déjà, les voyages vers les zones les plus touchées étaient interdits. Ça, c'est classique. Après, vous avez quand même un système dans certaines organisations, une sorte de processus un peu plus précis pour autoriser tel ou tel voyage. Alors qu'en règle générale, dans certaines activités, ça pose pas de problème. Vous avez également tout un tas de mesures qui sont mises en place du type réduire ou supprimer ou autant que faire se peut les réunions qui réunissent plus de 20 ou 25 personnes. Vous avez également de demander aux gens de privilégier le télétravail si pour des raisons professionnelles ils n'ont pas besoin de se rendre, d'éviter de changer de site tout le temps quand vous avez une entreprise qui a plusieurs sites. Voilà, donc ça c'est plutôt les mesures. Puis après vous avez les mesures dites sanitaires, donc les conseils sanitaires de se laver les mains, etc. Les fameux solutions hydroalcooliques qui sont partout, un certain nombre de conseils, etc. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a aussi, d'ailleurs c'est plutôt amusant, ce espèce de système où plus personne se serre la main dans les organisations.
Alors, dans ce contexte, hein, vous l'avez évoqué, le télétravail reprend un petit peu de vigueur, il l'avait déjà été pendant les grèves contre la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez même dire qu'il explose là ces dernières semaines?
Il explose là où c'est possible, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, pendant les périodes de grève qu'on a connues en décembre, beaucoup d'entreprises se sont organisées faute de pouvoir faire autrement. et se sont rendus compte que finalement ça marchait pas si mal. C'est une vraie différence de cette grève par rapport à celle de 95 par exemple. Donc c'est dire que là le système s'est remis en place. Mais il faut pas oublier que vous avez des dizaines et des dizaines d'activités en France qui supportent mal le télétravail, premier point. Quand vous avez un magasin, quand vous avez un restaurant, quand vous avez un télétravail, ça marche pas très bien.
L'industrie,
évidemment, les usines. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises ne sont pas toutes vraiment organisées pour fonctionner durablement en mode de télétravail. Donc sans que les gens se rendent compte. Donc même s'ils ont une activité qui le permet, c'est pas des choses qui peuvent durer très très longtemps.
Est-ce qu'il y a des entreprises du coup qui se préparent à investir davantage pour préparer l'avenir faveur de cette crise?
Oui, elles le font déjà, parce que le télétravail, au-delà de la situation particulière dans laquelle on est, c'est quand même une demande très forte de la part d'un certain nombre de salariés. Pas forcément du télétravail à 100%, parce que ça n'a pas beaucoup de sens sur un plan managérial et d'opérationnalité, mais en revanche, de pouvoir réserver une journée ou deux journées par semaine au télétravail. Donc les investissements, je pense que les phénomènes qu'on vient de connaître, qui sont de types différents, vont accélérer la capacité des entreprises à continuer à fonctionner dans un modèle de télétravail, ça c'est sûr.
Benoît Serre, vous l'évoquiez, on est en stade 2. Aujourd'hui, les entreprises craignent de passer au stade 3. Qu'est-ce que ça impliquerait ?
Les entreprises, elles craignent pas, elles regardent. Vous savez, depuis le début de cette crise, on gère un peu au jour le jour en fonction de l'évolution de la situation. La phase 3, elle sera un peu particulière parce que jusqu'à maintenant, les entreprises, elles ont une forme de liberté d'action. Elles choisissent, en fait. Avec la phase 3, on va voir apparaître probablement des instructions d'ordre public. On peut peut-être imaginer que lorsque tel ou un certain nombre de cas est identifié dans un immeuble, le préfet ait le pouvoir de demander à ce qu'on ferme l'immeuble et qu'on le nettoie, etc. Donc c'est vrai qu'on sera un peu plus dépendant de positions de l'État sur des fermetures des clusters, des choses comme ça pour la phase 3. On verra jusqu'à quel point ils iront. On voit qu'en Italie, ils sont allés très très loin. Est-ce que la France aura besoin d'aller jusque-là? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que les entreprises se préparent à être un peu moins libres de leur mouvement le jour où la phase 3 soit déclarée par les pouvoirs publics.
Un dernier point peut-être, Benoît Serre, le recours au chômage partiel, 400 entreprises, selon les derniers chiffres connus, y ont eu recours. Vous avez des retours, vous, de vos membres des RH qui activent ces dispositifs en ce moment?
Oui, alors vous savez, d'abord, on a pas mal de retours parce que c'est une réalité. Ils sont pas livrés, etc. Bon, donc ils sont obligés de passer en chômage partiel. Vous savez que le gouvernement réagit plutôt assez vite puisqu'il y a un décret spécial qui est sorti qui permet de passer en chômage partiel dans ces conditions-là, alors que généralement la procédure est un peu plus longue que ça. Ça a démarré assez vite. On espère que ça va pas durer trop longtemps. De même que pour les gens qui sont en quatorzaine et un certain nombre de mesures un peu exceptionnelles qui ont été mises en place par le gouvernement pour une période de 2 mois ou 3 mois. Puis on verra. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui nous signalent qu'ils vont passer en chômage partiel pour un temps indéfini. Et la difficulté, elle est là. Elle est dans le temps indéfini. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si ça dure 2 mois sans livraison, alors le chômage partiel de 2 mois, là, ça va commencer à poser des problèmes. Et puis il y aura les conséquences économiques qui suivront la crise.
Merci Benoît Serre, vice-président, je le rappelle, de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Merci également à Anne-Laure Jumet. Alors on l'évoquait à l'instant, de nombreuses entreprises préviennent effectivement que cette crise sanitaire aura un impact sur leurs résultats. Le risque de récession commence même à pénétrer les esprits. L'heure est donc aujourd'hui au branle-bas de combat. Hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'un fonds d'investissement de réponse au coronavirus serait prochainement créé et pourrait rapidement atteindre 25 milliards d'euros au bénéfice notamment des PME, du marché de l'emploi et plus largement des parties les plus vulnérables de l'économie des 27. Et puis partout, les initiatives se multiplient donc pour éviter un désastre économique mondial. Ce matin, la Banque d'Angleterre a annoncé une baisse surprise de ses taux, la plus importante depuis début 2009, au plus fort de la crise financière, et prévenu qu'elle prendrait toutes les autres mesures nécessaires. La Banque Centrale Européenne se prononcera, elle, demain. Et puis rappelons que la Réserve Fédérale Américaine avait déjà réduit ses taux la semaine dernière. Enfin, à Washington, l'administration Trump a assuré que son plan de soutien à l'économie initialement annoncé pour hier serait bientôt présenté. Toujours aux États-Unis, Joe Biden et Bernie Sanders ont dû annuler leur meeting prévu hier soir dans l'Ohio en raison du coronavirus venu pour la première fois donc perturber la campagne démocrate. Ce qui n'a pas empêché plusieurs millions d'Américains de voter sans incident et avec au moins 4 nouvelles victoires sur les 6 États en jeu hier lors de ce mini Super Tuesday. Eh bien, il ressort que Joe Biden devance désormais confortablement Bernie Sanders dans la course à l'investiture. Au camp, après des débuts de campagne difficiles, après de premières humiliations aussi dans les urnes, l'ancien vice-président Barack Obama signe là l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire politique américaine. Alors maintenant que la route semble désormais dégagée pour lui, toute la question est évidemment de savoir que va faire Bernie Sanders. Hier soir, l'ancien vice-président a tendu la main à son rival. En revanche, Nadine Epstein, le sénateur du Vermont, lequel avait jusque-là réussi à électriser des foules souvent jeunes autour de ses promesses d'assurance maladie universelle et d'études gratuites, est resté hier soir totalement silencieux.
Je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie infatigable et leur passion. Nous avons le même but et ensemble nous battrons Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden après avoir gagné le Mississippi, le Missouri et le Michigan et ses 125 délégués et l'Idaho. Fort de ses victoires, Joe Biden distance assez son rival pour estimer légitime de lui demander de jeter l'éponge. Certains qui estiment que Joe Biden a pris le contrôle de la compétition appellent au retrait de Bernie Sanders et à l'unification du Parti démocrate. À une exception près, les anciens grands candidats à l'investiture démocrate se sont ralliés à Joe Biden. Désarmé, Joe Biden, en raison de son âge, se présente, je cite, « de pont vers une nouvelle génération de dirigeants démocrates ». Pour l'instant, Bernie Sanders se tait, le sénateur du Vermont hésite à s'avouer vaincu et à renoncer à sa révolution politique qui électrise les foules. La donne pourrait changer en faveur de Sanders si, par exemple, Elizabeth Warren, qui depuis qu'elle a quitté la course des primaires, reste la seule à n'avoir pas annoncé qui elle soutenait, venait à se ranger aux côtés du candidat Sanders. Pour leur part, les équipes de Donald Trump mettent les deux démocrates dos à dos. Les deux candidats sont les deux faces d'une même médaille et ils défendent un projet socialiste, ont-elles réagi.
Maintien de l'ordre à quel prix? C'est le thème d'un rapport publié aujourd'hui par une ONG, ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Une enquête de 200 pages. Très documenté sur les évolutions des pratiques de maintien de l'ordre en France et leurs incidents sur les libertés, un rapport à remettre évidemment dans le contexte des manifestations issues du mouvement des Gilets jaunes. Alors ce rapport pointe par exemple le recours de plus en plus fréquent au LBD et déplore le manque de transparence des autorités, mais pas seulement. Je vous propose d'écouter Marion Guémas, autrice de ce rapport présenté donc officiellement ce matin. Elle répond à Florence Turm.
On a vraiment mis l'accent sur les armes qui sont utilisées par les forces de l'ordre, soit certaines dont on demande l'interdiction parce qu'on considère qu'elles représentent un danger excessif, d'autres pour lesquelles on demande un plus grand encadrement, mais aussi plus de transparence, encore une fois, sur la composition réelle de ces armes dont finalement on ne sait pas grand-chose. On a aussi des demandes en matière de transparence sur les suites judiciaires qui sont données aux plaintes pour violences légitimes, parce que là encore, on n'a pas d'informations. On demande aussi notamment sur des aspects de communication pour faciliter les manifestations, que les autorités françaises réfléchissent à développer le principe des officiers de liaison qui ont été mis en place dans d'autres pays européens, qui sont censés faciliter effectivement le déroulé de la manifestation, la communication entre les différentes parties prenantes et qui ont porté leurs fruits dans les autres pays.
Il vous semble que nos voisins font mieux que nous?
Pour nous, il n'est pas question de prétendre qu'il existe un modèle idéal et qu'il suffit de copier certaines choses et que tout va aller pour le mieux. En réalité, on a aujourd'hui un petit peu l'impression que les manifestations, c'est quelque chose qui devient pénible et qu'il faut encadrer uniquement. Et dans d'autres pays, on est sur une approche différente qui est celle de la facilitation. C'est-à-dire que la manifestation va arriver, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible? On a aussi beaucoup de, par exemple, de certains pays qui investissent beaucoup sur la formation de leurs agents, donc à la communication et donc aux sciences sociales, par exemple. Et donc, on n'investit pas que dans de l'armement, mais sur comment négocier pour justement éviter d'avoir à recourir aux armes. Donc en fait, c'est vers ça qu'on invite les autorités à réfléchir et c'est pour ça qu'on attend avec impatience le nouveau schéma national de maintien de l'ordre qui devrait être publié sous peu.
Voilà, Marion Guémas, donc de l'ONG ACAT, elle répondait à Florence Turm. Au lendemain d'un virulent réquisitoire du parquet national financier réclamant de la prison ferme pour l'ancien Premier ministre François Fillon, mais aussi 10 ans d'inéligibilité, la défense tente depuis ce matin de convaincre le tribunal que les emplois de son épouse Pénélope étaient bien réels. Au dernier jour de ce procès, les 6 avocats du couple se succèdent donc pour plaider la relaxe et démontrer une enquête qu'ils estiment à charge. Alors ce matin, la plaidoirie de la défense était notamment consacrée à la question de la prescription, compte rendu d'audience avec Antoine Marette.
Les faits reprochés aux Fillon sont-ils prescrits? Oui, répond maître Joris Monin de Flaugergue, qui dénonce une accusation caricaturale du parquet. L'avocat rappelle que la prescription est une garantie fondamentale selon le Conseil constitutionnel. Elle assure les conditions d'un procès équitable et il montre du doigt une instruction faite selon lui à l'acide, sortie de la naphtaline. Car dans cette affaire, certains faits reprochés datent de 40 ans. Qui peut fournir la preuve de son travail sur des périodes aussi lointaines, s'interroge l'avocat. Personne ne garde dans un local à archives l'intégralité de son travail passé, qui n'a plus aucune utilité. Ils réclament l'application de la loi, l'application du délai de prescription qui court 3 ans à partir du moment où l'infraction a été commise. Et pour lui, il n'y a pas eu dissimulation de l'emploi de Pénélope Fillon. Il n'y a pas eu de manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. L'avocat raille les arguments du canard enchaîné repris en boucle par le parquet. L'absence de photos de Pénélope Fillon sur le trombinoscope, son absence de badge à l'Assemblée nationale, et il s'emporte à la barre. Ces arguments, Madame la Présidente, sont une insulte à votre intelligence.
Les deux policiers jugés en appel pour une intervention en 2013 en Seine-Saint-Denis, à l'issue de laquelle une femme a été éborgnée, se sont défendus hier à la cour d'assises de Paris, estimant avoir eu raison d'agir comme ils l'ont fait au vu du contexte. Le verdict est attendu ce soir ou demain matin. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Du sud de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes, le soleil dominera largement partout ailleurs. En revanche, la grisaille sera bien installée, donnant parfois de faibles pluie. Par ailleurs, 6 départements, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde, ont été placés en vigilance orange crue. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.